Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau live en direct du showroom intergalactique. Voilà, c'est le live en mode question and answer, question-réponse. Donc voilà, j'ai quelques petites choses bien sympas à vous montrer, histoire de lancer l'émission. Et puis, vous connaissez le principe, vous posez des questions dans la chatroom, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch ou même sur Clubhouse, puisque voilà, ça fait, je pense, c'est la quatrième dimanche, là, que l'émission est aussi diffusée non seulement sur YouTube et sur Twitch, mais aussi sur Clubhouse en audio si vous voulez intervenir. Il y a juste à rentrer dans le salon et puis à lever la main et à poser votre question ou poser un commentaire, une remarque, etc. Avec moi ce soir, j'ai récupéré cette semaine deux avions de chasse assez incroyables. La première, c'est celle-là, c'est une guitare baritone du luthier Thomas Feijoz. Voilà, donc baritone, ça veut dire que c'est un diapason un peu plus long. Elle est accordée en si au lieu d'être en mi. Voilà, donc une carte en dessous, si je dis pas de bêtises. Et ça sonne terrible. Donc, histoire de faire un peu venir la foule en délire, eh ben écoutez, je me propose de faire quelques petites notes. Et je vais même activer la réverb, histoire d'avoir un joli son. Et donc là, le son que vous entendez, il y a évidemment, elle a tellement de volume cette guitare qu'il y a du son qui passe dans le show SM7B qui est ici, mais aussi et avant tout dans le Neumann KM184, oui, que vous apercevez ici à l'écran. Je vais activer. Alors je vais pas mettre la réverb, tiens, pour le début, et après je mettrai la réverb. Descend dans les graves, hein. Voilà, je vais activer la reverb maintenant.
Muddy water blue, singing muddy water blue, muddy water blue. Ooh, Jerry the blue. Woman, whiskey will frame you. There's nothing else to lose. Under the weeping willow tree and this muddy water blue, singing muddy water blue, muddy water blue. Ooh, Jeremy the blue.
Voilà, une guitare assez incroyable. Je vais couper la reverb parce que là, je faisais un petit peu semblant que je savais chanter. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Alors, je vérifie que tout fonctionne toujours bien. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Validez-moi bien hein, que le son et l'image sont corrects. Visiblement, c'est le cas. Donc ça fait partie des guitares que je viens de récupérer au showroom, donc cette baritone de Thomas Feijoz. Alors voilà, c'est la grande classe, hein. C'est table en cèdre, le dos c'est un vieux palissandre de Madagascar, voilà, qui est magnifique. Il y a un soundport, là, une ouïe supplémentaire, on va dire, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Ici sur le dessus, ce qui fait qu'on entend encore plus le son de la guitare. Rosa s'éclater, filetterie, enfin bref, la tête, je trouve assez, j'aime bien ces lignes assez racées, là, qui sont très bien marquées, enfin bref, c'est un avion de chasse. Un peu intimidant à jouer parce que c'est un diapason qui est plus long et puis on a l'impression qu'on joue avec une basse en fait, hein, tellement le son est profond, quoi. Donc quand on est en position de mi comme ça, et ben en fait on joue ainsi en fait. Hein. Donc bonjour à Guitar Steph et à Stéphane qui me disent que le son et l'image sont nickel. Bon bah tant mieux, parfait. Et donc c'est en fait cette semaine, oui lundi, que j'ai eu le plaisir de recevoir donc Thomas Feijoz. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Regardez, il y a même ce qu'on appelle un armrest. C'est-à-dire que plutôt que la guitare ait comme ça un angle droit, eh bien, il y a un petit pan coupé en fait qui fait que votre petit bras comme ça, quand il est ici, eh ben, il a une position beaucoup plus confortable, quoi. Et donc ça, c'est lundi. Il y a Or qui me demande le nom de la marque. Alors, c'est un luthier en fait qui fait ça. Il s'appelle Thomas Feijoz. On peut jeter un petit coup d'œil sur son site web, voilà, que je vais vous montrer tout de suite à l'écran. Voilà, ça c'est le site web de Thomas Feijoz qui fait des choses vraiment de toute beauté. Il y a un certain nombre de guitares. Voilà, la guitare qui est en ce moment ici, c'est celle-là, c'est la baritone Van Fret, celle que je tiens ici par-devers moi. Et donc c'est un luthier français qui va fabriquer cette année sa 200e guitare et il fait des choses vraiment top niveau. Hein. Moi j'ai eu le plaisir de le recevoir plusieurs fois, enfin non, de le croiser plusieurs fois. On avait fait une première interview en 2014 au festival Guitare Issoudun. Et là il est repassé lundi et il est venu avec François Ciortino, donc cet excellent finger picker, et il a laissé deux guitares ici au showroom qu'on voit. Alors donc là il y a la première qui est ici, donc je vous ai fait écouter quelques petites notes, et puis il y a cette jumbo que vous apercevez à l'écran que je vais vous faire écouter dans quelques instants. Et voilà, le baritone Van Fret. Et donc quand Thomas est venu, donc on a fait une interview qui sera publiée très bientôt. Et c'était une chouette rencontre parce que c'est un artisan français, voilà, qui fait des choses vraiment un niveau de lutherie franchement top niveau. Et donc, Or, tu me demandes pourquoi il y a un trou en fait au-dessus de la caisse comme ça. C'est que normalement, les guitares standard, acoustiques standard, le son, enfin plutôt l'air en fait rentre et sort par la rosace et se diffuse. Enfin, c'est la table qui diffuse comme ça. Le fait d'avoir une sorte de rosace supplémentaire ici, bien qu'on n'appelle pas ça une rosace, ça permet d'avoir une diffusion supplémentaire pour le musicien, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve de temps en temps sur les guitares modernes de plus en plus. Ça permet d'avoir un retour en fait, hein, parce que évidemment le meilleur endroit pour écouter une guitare acoustique, qu'elle soit à corde d'acier ou corde de nylon, celle-là est à corde d'acier, c'est devant la guitare. Mais évidemment, pour le musicien, c'est un peu compliqué d'être à la fois derrière la guitare pour en jouer et puis d'être devant pour l'écouter. Donc, je ne sais pas quel est le luthier qui a eu cette idée-là. Je pense que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais qu'on retrouve de plus en plus maintenant sur la lutherie moderne. Et donc, alors ça change forcément le son de la guitare, parce que du coup, le volume d'air se déplace différemment, puisque plutôt que de rentrer ou sortir uniquement par la rosace, de faire un peu ce système de respiration, il peut aussi rentrer et sortir par là. Et alors, pourquoi elle est accordée différemment? Bah en fait, elle est baritone, donc ça permet d'avoir, tu vois, cette note-là, c'est un si, alors que sur la guitare qui est ici sur le côté, que je vais prendre après par la suite, la note la plus grave, c'est un mi. Voilà, donc ça donne un autre registre en fait. Hein. Donc ça permet de descendre plus grave. Donc quand on a par exemple comme vous une voix assez grave, bah, ça permet notamment, bien que c'est pas la seule utilité de ce genre de guitare, de chanter des chansons qu'on pourrait pas chanter. Enfin, parce que du coup, avec les mêmes positions d'accords, là où sur cette guitare, ça serait effectivement un accord de mi, bah, ici ce que je joue, c'est un accord de si, avec ces belles basses bien profondes, là, comme ça. Donc voilà, ça demande un petit peu d'entraînement parce que la corde est un peu plus grosse et puis le diapason est un peu plus long. Vous pouvez remarquer aussi, détail très important, c'est que les frettes ne sont pas droites. Voilà. Alors c'est pas parce que Thomann ne sait pas fabriquer des guitares, c'est parce que c'est ce qu'on appelle un système fan fret qui permet d'avoir un diapason qui est différent pour chacune des cordes en fait, donc qui est plus long pour les cordes graves et plus petit pour les cordes aiguës. Donc ce qu'on appelle le diapason, hein, c'est la longueur de la corde vibrante en fait, ce qui permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes en fait, hein. Donc on a un diapason relativement court pour les aigus pour avoir un son qui soit bien cristallin et avoir un diapason plus long pour les basses pour avoir un beau son de grave et avec en ayant quand même une tension raisonnable sur la guitare. Et c'est comme sur les guitares métal, les frettes. Oui, alors c'est vrai que le système de fan fret comme ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup sur les guitares métal. Et en fait, on le retrouve beaucoup, surtout pour les guitares qui ont plus de 6 cordes. Donc de base, une guitare à 6 cordes, là c'est le cas aussi de celle-là. Donc là, c'est juste une guitare, mais qui sonne un peu plus basse en fait. Chez les métalleux, donc de musique métal, très souvent, enfin de plus en plus, ces derniers temps, c'était avec 7, 8, voire 9 cordes. Et à ce moment-là, c'est encore plus utile d'avoir du fan fret, parce que quand on commence à rajouter des cordes sur le dessus, pour qu'elles sonnent vraiment bien, il faut allonger le diapason. Donc du coup, plutôt que les frettes soient droites, en fait, on s'en sert, le système qui est utilisé est celui-là. Mais c'est un système qui est extrêmement ancien, hein, qui n'est pas du tout, c'est pas une invention qui est récente, mais par contre, qu'on retrouve de plus en plus, effectivement, du côté des guitares métal, mais pas que. Moi, j'ai des guitares, j'ai une guitare ici qui est avec un système de fan fret et qu'on retrouve dans d'autres systèmes. Et donc, on peut le retrouver aussi sur des guitares acoustiques dans le genre. Bonjour Manex, à toi aussi. Voilà, donc de la lutherie de super haut niveau. Hop, je vais la poser délicatement en essayant de ne pas faire de dégâts. Voilà. C'est une guitare donc qui est en ce moment au showroom pour quelques semaines. Voilà, puisque le luthier Thomas Féjose, il habite en Ardèche, à Chaumérac. Me demandez pas où c'est, j'ai aucune espèce d'idée. Voilà. Et il a ces deux instruments qui sont ici au showroom, donc la baritone que je viens de vous montrer et cette djembo avec cette magnifique table en cèdre. Voilà, il faut que je fasse attention pour pas que vous ayez de reflets. Table en cèdre et puis le dos éclisse, je crois que c'est en okoumé avec une magnifique finition. Voilà, donc là, pour le coup, là où la corde la plus grave, c'était celle-là sur la baritone. Voilà, le si, là on est beaucoup plus haut. Oula, je joue un peu n'importe comment ce soir. Avec le médiator. Beaucoup de son avec cette guitare aussi, hein. C'est une guitare de type jumbo, donc qui a beaucoup de volume à l'intérieur, donc du coup elle a une projection en son qui est très très importante. Vraiment, quand on a ça sur les mains, c'est une vraie cathédrale, hein. Ça sonne à non plus finir. Et un sustain qui dure. Voilà, là moi j'entends encore la note, j'entends encore, là elle est en train de mourir. Là, il n'y a pas de réverb, hein, rien du tout. Là, je suis direct avec un petit peu de réverb. Bonjour, Matteo El Loco. Ouh, faut que je coupe la réverb sur ma voix, là. Parce qu'on a l'impression que je suis dans une cathédrale. Hop. Alors, FXB, hop, et voilà. Il n'y a plus de réverb sur ma voix. Salut Mathieu, comment ça va? Et donc là, je rappelle, le son que vous entendez, évidemment, ça passe un petit peu dans le chour, mais ça passe surtout avec le KM184, le Neumann KM184 qui est devant moi ici. Et si je coupe la reverb, voilà. Alors oui, Matt, elle sonne très très bien cette guitare. Elle sonnerait encore mieux. Elle sonne encore mieux quand elle est jouée par un musicien de qualité. C'était le cas de donc François Ciortino, qui est un des meilleurs figure pickers français, qui est venu donc avec Thomas Feijoz lundi dernier. Donc on a enregistré trois interviews en fait avec Thomas. Donc enfin avec Thomas et François, on en a fait une première juste avec Thomas pour parler de ses guitares. Après, on en a fait une qui était pas triste avec dans la série Un musicien et son luthier. Donc là, c'était donc avec François Ciortino d'un côté et puis Thomas Feijoz. Et ensuite, j'en ai fait une avec François tout seul, puisqu'il vient de sortir un album vachement bien. Et d'ailleurs, on peut regarder rapidement sur le site web. Donc, si vous tapez Un musicien et son luthier dans la barre de recherche ici, là, Un musicien et son luthier. Voilà, on va tomber sur la série d'articles que j'ai enregistré dans le genre. Donc la dernière fois, bah, c'était au NAMM, voilà, l'an dernier. Donc lors du dernier Winter NAMM, parce qu'il n'y a pas eu de NAMM cette année en 2021, enfin pas de Winter NAMM. Et c'était avec Mike Moreno, donc l'excellent guitariste de jazz américain, et puis le luthier Steven Marchione. J'avais fait ici avec June Sweetoon et François Touran, Shai Sebag, Will McNichol et puis Tom Sands. J'avais fait aussi avec Gérard Defurne et puis Thomas Gubitsch. Donc j'adore pouvoir faire ce genre d'interview. Il y avait aussi, il y a quelques temps, lors du Guitare au Beffroi 2018, voilà, j'avais fait une interview avec Christian Séguret. Donc, et puis Franck Cheval, donc c'était évidemment super intéressant, parce que ça permet de confronter un peu les points de vue. Donc on a fait ça, et puis pour terminer, donc une interview avec l'inénarrable François Ciortino, qui est un bon client en interview, que j'ai le plaisir d'interviewer plusieurs fois. La dernière fois, bah, c'était en 2019, quand il était venu présenter ici au showroom son album Saltimbanque. Et là, il vient de sortir un album qui s'appelle Mare Nostrum, qui est très très bien. En 2017, j'avais même fait une masterclass avec François Ciortino. Donc vous pouvez d'ailleurs vous la retrouver en replay intégral sur la chaîne Guitare. Donc c'est un musicien que j'aime beaucoup, qui fait des très très belles compositions. Voilà, franchement, à chaque fois, c'est un vrai régal de rencontrer ce musicien. Et donc là, comme Thomas Feijoz et puis François Ciortino travaillent ensemble depuis pas mal de temps, eh ben, c'était un vrai caviar de pouvoir avoir les deux musiciens. Donc ça fait partie, cette guitare, et puis la baritone que je vous ai présentée avant, font partie des guitares qui sont ici au showroom pour quelques semaines. Je vais couper le micro Neumann, parce qu'on ne va plus en avoir besoin. Sauf si vous avez des questions sur la guitare acoustique. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sinon d'intéressant? Moi, vous savez qu'une fois que je suis devant les caméras, je suis inarrêtable. Hein, mais le but du Q&A, c'est que vous posiez des questions et que je tente d'y répondre voilà, sur les choses qui s'en viennent, les projets en cours, etc. Et je vais aussi vous parler de matos, voilà, puisque vous voyez ici à l'écran, j'ai récupéré un Ultimate Cab de chez Elena Guitar Effect. Donc c'est cet atténuateur de course complètement analogique qui permet de récupérer du son de guitare. Donc là, la manière dont fonctionne un atténuateur, c'est qu'on l'intercale entre la sortie de l'ampli de puissance et le baffle, le HP qui est en dessous. Là, c'est un combo, mais ça serait pareil avec une tête. Et c'est lui qui absorbe complètement la puissance. Donc là, le bouton qui est ici, il va de 0 à 100%, donc il permet d'absorber complètement la puissance, ce qui est le cas. Là, je vais vous faire une petite démonstration de son de guitare électrique. Il n'y a aucun son qui sort du HP. Ou alors, je peux le mettre, il atténue rien du tout. Et à ce moment-là, j'ai à la fois le son qui sort du HP et pour la prise de son, tout le filtrage qui est apporté par l'Ultimate Cam. Et ça, c'est une chouette machine. Donc, ça fait le même travail que le Oxbox, mais de manière complètement différente, puisque la Oxbox, c'est quelque chose qui est numérique, alors que l'Ultimate Cam, donc cet appareil de Elena Guitar Effect, est 100% analogique. On peut jeter un petit coup d'œil sur le site web de Stéphane Elena. Voilà, alors il fait non seulement des produits comme le Elena Guitar Effect, mais il fait aussi comme l'Ultimate Cam, mais il faut aussi des pédales, voilà, d'excellente qualité, la Mark 3, et je pense que ça va être la prochaine image, ça va être l'Ultimate Cab. Et voilà, l'Ultimate Cab. Ouh, je suis allé trop vite, du coup, je suis passé sur celle-là. Voilà la Highlight, donc qui est le délai qu'il a développé pour avec Neo Geo Fanatic. Ça, c'est la distorsion Patrick Ronda. Et voilà l'Ultimate Cam. Donc, du matériel top niveau qui marche nickel. Donc, ça fait partie du matériel qui est maintenant au showroom. Et écoutez, si vous voulez, je peux vous faire une petite démonstration de comment ça sonne. Alors, Manex me demande, est-ce que je préfère la Oxbox ou l'Ultimate Cab? Alors voilà une bonne question, quelle est bonne? Je prends un petit coup d'eau. Les petits bruits que vous venez d'entendre, c'est les deux personnes qui viennent d'arriver dans la room sur Clubhouse. Donc bonjour à Thierry, bonjour à Didier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc alors Manex, je ne sais pas comment il faut prononcer ton pseudo, me demande est-ce que je préfère la Oxbox ou l'Ultimate Cab. Ben, en fait, bon, c'est un peu une question qui est compliquée parce que d'un point de vue prix, ils sont à peu près au même niveau. Hein. L'Ultimate Cab est dans un peu plus de 1000 euros et c'est à peu près pareil au niveau de l'Oxbox. Donc niveau prix, c'est pareil. Niveau qualité, dans les deux cas, on est sur du haut de gamme. Donc voilà. Après, c'est deux philosophies qui sont très différentes. Donc, puisque la Oxbox, il y a un atténuateur analogique avec des grosses résistances pour absorber la puissance, mais toute la partie émulation se fait en numérique. Alors que avec l'Ultimate Cab, là, on est complètement en analogique. Faut voir ça comme un appareil qui fait du filtrage pour vous donner effectivement un son de comme si vous le repreniez votre ampli avec un micro, mais de manière complètement analogique. Donc, ce qui veut dire que là où même si la Oxbox marche hyper bien puis que c'est en numérique, il y a forcément une latence. C'est mathématiquement impossible autrement. Moi, avec mes petites oreilles, je l'entends pas, mais c'est obligé qu'il y ait une latence. Alors que avec le Ultimate Cab, pardon, on est complètement en analogique. Donc voilà, on est 100%, il n'y a pas de délai puisque le circuit il est complètement pur à ce niveau-là. Donc si vous voulez, je vais vous faire un petit peu de son de guitare pour vous faire entendre ça. Voilà, donc je vais utiliser l'Epiphone ES339, donc qui est branché dans mon pedalboard, mais là pour l'instant il n'y a rien d'activé. Et ça nous donne ça donc en son clair. Est-ce que j'ai du son? Oui, je devrais avoir du son là maintenant. Si je démute ça, voilà, nous avons du son. Et je mute mon micro. We'll be right back. Voilà, c'est pas mal, hein, ça sonne quand même terriblement bien. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bricolé quelques riffs et j'ai juste changé. Je suis passé du canal clean au canal crunch, au canal super énervé du Marshall. Et les réglages de l'Ultimate Cab, eux, ont pas du tout changé. Donc, alors, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de boutons sur l'Ultimate Cab, et vous avez raison, parce qu'il y a beaucoup de boutons sur l'Ultimate Cab. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Je vais essayer de me déplacer un petit peu pour avoir un bras qui est assez long. Ici, on règle l'atténuation. Donc là, il est complètement sur l'outbox. Ça veut dire que ici, dans le showroom, il n'y a pas de son qui est diffusé. Tout passe par la prise XLR qui est envoyée. Là, ça détermine le gain d'entrée. Après l'atténuateur, là, on peut régler un petit peu le shape, donc le son. Ensuite, la section qui est ici, en fait, là, elle n'est pas utilisée parce que l'Ultimate Cab permet non seulement d'être un atténuateur comme ça, mais aussi de brancher un véritable micro. Donc, il y a un véritable préampli à l'intérieur pour brancher un micro que vous metteriez devant l'ampli pour avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire et le son de l'atténuateur et un vrai son de micro. Là, moi, j'utilise que l'atténuateur, donc il n'est pas utilisé. Ensuite, la section qui est ici, bah, ça permet d'égaliser finement le son qu'on veut avoir. Et la section qui est tout au bout, c'est la même chose, mais pour une autre sortie qui est derrière. Voilà, donc finalement, l'avantage de ce genre de système, c'est que ça se règle en fait comme un ampli, hein, puisque ce n'est pas plus compliqué qu'un ampli. Les boutons de gain, vous montez, c'est plus fort. Les boutons d'égalisation, ça va être plus aigu, etc. Enfin, ça permet de raffiner le filtrage. Et l'intérêt, encore une fois, de ce genre de système, c'est que c'est complètement analogique. Donc, il n'y a pas de notion de réponse impulsionnelle. Dans 8, 10 ans, 15 ans, 20 ans, cet appareil tout analogique qu'il est, il continuera de fonctionner. Là où potentiellement, la Oxbox que vous voyez ici, ou c'est le cas aussi du Captorix que vous apercevez peut-être derrière moi là-bas, qui sont des appareils numériques, régulièrement, ils sont remplacés par des appareils plus puissants, plus rapides, etc. Avec l'analogique, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, vous avez peut-être une durabilité qui est un petit peu plus importante. Le prix à payer, c'est que vous avez peut-être un peu moins de souplesse, hein, parce que la Oxbox, par exemple, vous pouvez passer en claquant des doigts d'un 4-12 de type Marshall à un 2-12 de type Vox, un 1x10 de type Fender. Ça inclut des effets de type reverb, delay, égalisation, compresseur. Donc, c'est quasiment un outil de studio, alors que l'Ultimate Cab qui est ici, en fait, lui, il fait que du filtrage de son, en fait. Il n'y a pas de reverb dedans. Il y a un petit délai, une petite ligne à retard qui permet d'éviter un peu le côté j'ai la truffe dans le HP, mais c'est pas une reverb, quoi. Donc une super belle machine. Donc ça fait partie du matériel qui est essayable au showroom pour les abonnés de la chaîne guitare, hein. Pour ceux qui l'ignorent encore, si vous allez sur la chaîne guitare pour vous abonner, vous allez sur lachaîneguitare.com. Allons jeter un petit coup d'œil sur le site web. Tiens, ça sera la séquence publicitaire. Vous cliquez ici sur abonnement. Et en fait, il y a deux formules, hein, pour faire simple, hein, sur la chaîne guitare en termes d'abonnement. Vous avez la formule à 6€ par mois qui permet d'accéder à la totalité du contenu. C'est un peu le côté Netflix de la guitare. Et vous avez la formule à 10€ par mois ou 120€ par an qui permet non seulement d'accéder au contenu, mais par exemple de venir ici au showroom pour tester du matériel. Ça permet aussi de tester du beau matos. En ce moment, par exemple, il y a une pédale qui est en train de tourner, c'est la Mark III de chez Elena Guitar Effect. Il y aura d'autres pédales qui vont tourner et ça permet de participer au concours et compagnie. Voilà, donc ça, c'est un peu les différentes possibilités. Donc, et ça arrive assez régulièrement. Par exemple, la semaine dernière, j'ai deux backstagers qui sont passés et qui sont venus. Il y en a un, il voulait tester les amplis à lampe, les amplis Kelt que j'ai derrière. Et il y en a un autre, c'était pour essayer quoi ? Est-ce que c'était pour essayer un matériel en particulier ? Je pense que c'était pour le plaisir de venir, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, parce que c'était José qui est déjà abonné depuis quelques temps. Voilà, alors, question de Jean. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que j'ai fait quelque chose de très long, Manix, mais la Xbox et l'Ultimate Cam, c'est franchement deux machines qui sont assez différentes. Hein, donc, c'est plus une question de philosophie, en fait, parce qu'on est sur des technologies qui sont extrêmement, extrêmement différentes. Alors, Jean me demande, est-ce que j'ai des retours documentés sur une usure accrue des lampes avec les atténuateurs en général? Alors, excellente question. Écoute. Moi, je n'ai pas de, enfin, j'ai pas de, en tout cas, de retour d'expérience moi-même. Je pense que potentiellement, ça peut user, hein, puisque quand on utilise ce genre de système, ça veut dire que cet ampli, par exemple, le Marshall 6101, là, que vous voyez ici, c'est un ampli 100 watts. Donc, autant vous dire que 100 watts dans une pièce comme le showroom, il est en général à 10% de sa puissance et encore, ça fait déjà assez fort. Par contre, cet ampli, je l'ai depuis très longtemps. Donc, à l'époque où je jouais dans des groupes, je m'en suis servi lors de fêtes de la musique, lors de concerts. Donc, à ce moment-là, on monte un peu le volume. Et dans un ampli à lampe, on a du son. Le son va changer, va être saturé, va avoir un peu d'overdrive avec la section de préamplification, mais c'est aussi la section de puissance qui contribue à ça. Et ce qui fait un peu le son magique des amplis à lampe, voilà, sur les enregistrements qu'on adore de musique rock et compagnie, c'est la combinaison du gain qu'on a dans la section de préamplification et dans la section d'amplification. Et pour pousser l'ampli dans ses derniers retranchements, eh ben, il faut le mettre assez fort. Et encore, cet ampli a ce qu'on appelle un master volume, donc on peut un peu maîtriser la bête. Les vieux Marshall n'avaient pas de master volume, donc si vous vouliez avoir du gain, eh ben, il fallait mettre à très très fort. Et à ce moment-là, vous aviez du gain, mais c'était surtout très très fort. Et donc, si vous utilisez ce genre d'appareil, donc d'atténuateur, vous pouvez donc faire travailler très fort votre ampli dans un silence complet. Du coup, ben, à ce moment-là, si vous ne faites pas gaffe, vous pouvez laisser votre ampli à 100 watts au taquet. Donc les lampes vont travailler à fort. Et donc c'est de l'analogique, c'est de la technologie à lampe, ça chauffe, etc. Donc au bout d'un moment, ben, ça claque. Donc je pense que la durée de vie doit être un petit peu plus réduite. Après, c'est une question de durée d'utilisation aussi, hein, je pense, hein. C'est clair qu'il y a une différence de son quand on pousse l'ampli puis qu'on laisse l'atténuateur absorber cette puissance versus le jouer beaucoup moins fort. Voilà, si vous faites du home studio, que vous jouez à la maison, ben, pensez peut-être à ne pas laisser votre ampli allumé puis avec le volume à fond en permanence. Est-ce que ça chauffe beaucoup? Me demande Manex. Bah écoute, je sais pas si ta question est pour les amplis ou pour l'atténuateur. L'ampli, oui, ça chauffe beaucoup, ça chauffe terriblement un ampli à lampe. Hein, c'est une technologie qui est complètement dépassée hein, parce que ça dégage beaucoup de chaleur, donc une bonne partie de la puissance électrique qu'on injecte là-dedans en fait est perdue sous forme de chaleur, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. L'Ultimate Cab, écoute, donc c'est ta question, t'es pour l'Ultimate Cab, Manex, écoute, là, je mets ma main dessus, non, je pense, je perçois pas de chaleur, alors que si je passais ma main derrière l'ampli, je sentirais vraiment la chaleur des lampes, y a aucun doute là-dessus. Il est équipé d'un ventilateur, un Ultimate Cab, hein, donc, et il y a des petites grilles d'aération de chaque côté. Et l'arrière aussi est complètement ventilé. Donc, et Stéphane Elena qui conçoit, qui fabrique ces appareils, est un ingénieur de très haut vol. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Il a été développé en collaboration avec Pascal Vignier. Voilà, qui est quelqu'un qui connaît bien le matos, qui faisait pas mal de concerts à une époque où on pouvait en faire, bien sûr. En ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Et ça marche super bien. Donc après, c'est franchement une question de philosophie. Hein. Le CaptorX, vous le voyez ici, c'est le petit boîtier blanc bah, qui est un peu là-bas. J'en ai fait des tests hein, déjà sur la chaîne guitare. Ça fonctionne très bien. C'est moins cher que l'Ultimate Cab. Il est aussi beaucoup plus petit. Donc il est mono-impédance alors que la Oxbox est multi-impédance. L'Ultimate Cab est aussi multi-impédance. Donc voilà, c'est un peu des questions de choix, de philosophie par rapport au matos. Et c'est ça d'ailleurs le paradoxe qu'on voit en ce moment avec les matériaux, enfin ce type de matos, c'est que il n'y a encore pas très longtemps, avant que ce type d'équipement commence à se développer beaucoup. Et donc là, je vous parle de matos qui sont de très haut de gamme, mais j'ai aussi, il y a quelques temps, j'avais acheté, je vais vous le montrer, il faut que je change un peu le cadrage, voilà. Voilà, il va être un petit peu en contre-jour, enfin devant la lampe. Voilà, mais donc le boîtier que vous apercevez au sommet ici de la Hoaxbox, en fait, c'est un atténuateur de la marque Koch, ou je ne sais pas s'il faut dire Koch ou Koch, enfin bon, c'est hollandais. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que vous branchez votre ampli d'un côté, et de l'autre côté, avec la rangée de trous en fait qui sont ici, vous choisissez votre niveau d'atténuation, donc de 1% à 100%. Donc ça, c'est complètement analogique, hein. Il y a rien là-dedans, c'est juste, je pense qu'on doit les voir. Voilà, vous voyez les petites résistances jaunes, j'essaie de vous montrer. Non, c'est pas comme ça. Là, on a failli les voir. Enfin bref, ah voilà, on les voit un petit peu. Donc vous voyez les petites barrettes jaunes qu'on aperçoit dans le boîtier. Ça, ce sont les résistances. Donc là, ça, c'est construit comme un char d'assaut. C'est ventilé de partout. C'est complètement passif. Alors, on peut brancher ici une alimentation pour faire tourner un ventilateur. Voilà, moi, j'en ai jamais eu besoin, mais j'ai jamais joué non plus à un plexi à mort pendant 2 heures dessus. Et donc voilà, et je faisais cette parenthèse pour la LB122, parce que ça coûte, je pense, j'avais acheté d'occasion 200-300 euros, quelque chose comme ça. Et ça fonctionne super bien, franchement, c'est très très bien. En plus, elle a le bon goût de proposer une sortie filtrée, donc... Ici, c'est les degrés d'atténuation. Donc, on branche l'ampli. Où est-ce qu'on le branche, l'ampli Guitar Amp, voilà. Donc, on le branche ici. Et puis là, on choisit. Bah, si on branche le baffle, et bah, là, on est à 100% de puissance. Là, on est à 40%, 15, 5, 2, 1%. Et si on ne branche rien, bah, toute la puissance est absorbée ici. Et ici, on a une petite section qui permet de brancher un câble XLR pour le mettre par exemple sur la console et qui fait un peu une émulation. C'est relativement basique, hein. On a le choix d'avoir le micro qui est dans l'axe ou désaxé, et puis d'être en 4-12 ou en 1/10. Voilà, donc c'est relativement basique, mais ça fonctionne très bien. J'ai enregistré pas mal de tests de matos avec ça. Et l'avantage, c'est que c'est complètement passif. C'est simple à utiliser, il n'y a pas de réglage, il n'y a pas un potard dessus. Donc, c'est assez facile d'obtenir du son de qualité avec ça. Voilà, donc pour ceux qui veulent découvrir un petit peu ce genre de matériel qui se tâte entre le Captorix, l'Ultimate Cab, l'Universal Audio, la Loadbox de chez Koch ou de choses comme ça, voilà, vous pouvez venir... au showroom, évidemment, il faut être abonné à la chaîne guitare, la formule à 10 euros par mois ou 120 euros par an. Et ça vous permettra de tester ce matériel, peut-être voir un peu ce qui vous convient le mieux. Voilà, je voulais vous parler de quoi. Oui, vendredi, j'ai eu le plaisir de recevoir Martin Giovanni, qui était avec moi ici en tant que co-animateur du live. Donc, c'était un chouette moment. C'est un excellent pédagogue qui fait un site qui s'appelle guitareimprovisation.com. Je vais lui faire un petit coup de pub, parce qu'il fait du super travail. J'avais déjà eu le plaisir de le rencontrer. Donc voilà son site web, donc guitare-improvisation.com. Il a beaucoup de contenu gratuit d'excellente qualité, mais il fait aussi des packs payants, et c'est tous les guitaristes que je connais qui ont acheté des packs chez lui disent franchement c'est de la super cam, et j'ai pas de mal à le croire. Et c'est un musicien que j'avais le plaisir de recevoir en interview il y a quelques temps, et donc il est venu vendredi, on a passé une bonne partie de la journée ensemble, et il était mon invité pour le live de vendredi soir, donc qu'on a co-animé ensemble. Et comme il est venu dans l'après-midi, en fait, on a profité de l'occasion pour enregistrer quelques chroniques pédago, donc que j'aurai le plaisir de vous proposer très bientôt. Il y en a une, c'était sur l'accompagnement blues. Le deuxième, c'était sur une rythmique un peu à la J.J. Cale. Et le troisième, c'était sur la technique du roulé, que je ne connaissais pas. Voilà, donc... Voilà, pour découvrir ce qu'est la technique du roulé, eh bien, il faudra attendre la chronique. Je parle. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau, sinon? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont regardé ce que je pense qui a été un très beau concert, le concert de Tiffany Doucet, qui était le deuxième concert que j'organisais ici au showroom. Donc c'est une chanteuse que j'ai découverte, la chanteuse que j'ai découverte, ouais, c'est ça, via Clubhouse. Et comme je suis allé écouter sa musique sur Spotify et compagnie, eh bien, je lui ai proposé de venir donner un concert. Elle a accepté volontiers. Et donc, c'était jeudi dernier. Donc et après le concert, on a fait une interview en direct réservée aux abonnés, donc dont vous trouvez le replay pour les abonnés. Et sur l'article que je suis en train de vous montrer, il y a aussi le replay complet du concert. Donc, alors c'est des chansons un peu pop, folk, etc. Je trouve qu'elle a un joli brin de voix. Ses compositions sont vraiment, vraiment bien. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à organiser ce concert pour elle. Et je pense qu'elle, elle était plutôt contente. Elle m'a dit d'ailleurs, ah mais tu sais, j'ai jamais eu mon son de guitare qui sonnait aussi bien que ça. Elle est venue avec sa guitare, donc c'est une Gibson B25 de 1969. Superbe, franchement, un avion de chasse, un avion de chasse très différent, par exemple, de ce que je vous ai présenté au début du live, avec dans la lutherie de Thomas Féjose. Là, on est plutôt dans la guitare vintage, avec un son un peu roots, mais ça collait super bien avec sa voix et avec sa musique. Et d'ailleurs, je vois donc dans la chatroom qu'il y a Mathieu et Jean qui ont bien apprécié le concert de Tiffany. Et bien, ça fait plaisir. Et donc, il y en aura un autre. Le prochain, si on va sur le site web, vous pouvez avoir le calendrier de tous les événements directs. Vous allez sur l'accueil, ensuite direct, calendrier direct. Donc lachaineguitare.com/direct en fait, voilà, pour avoir tout directement. Et le prochain concert, ça sera le 7 avril, donc dans pas très longtemps, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je crois bien, avec Laurence Meff et Joël Gombert. Donc Joël Gombert, c'est un super musicien que j'avais reçu ici plusieurs fois, tout seul et aussi avec Michel Aumont, avec qui il a enregistré un album. C'est aussi un abonné de la chaîne Guitare, ce dont je le remercie, et il fait donc... de la musique avec Laurence, avec sa compagne. Donc ça sera le 7 avril. Donc ça devrait être pas mal sympa aussi. Et puis il y a d'autres concerts sur lesquels je suis en train de réfléchir. Voilà, tous les musiciens à qui je l'ai proposé étaient plutôt partants. Après, c'est toujours pareil. En plus, en ce moment, because confinement, tout ça, c'est un peu compliqué de gérer les déplacements. Voilà, je sais que... Enfin voilà, il y a pas mal de... Tous les gens, encore une fois, à qui je l'ai proposé étaient plutôt partants sur l'idée. Il faut trouver, après, aligner les planètes pour que ça se passe correctement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, super artiste. Eh bien, très bien, ça fait plaisir, excellent. Et coucou Pierre, oui, j'ai regardé aussi, du coup, une belle découverte pour le coup. Eh bien, pareil, donc voilà, c'était Tiffany Doucet. Moi, je l'ai découvert donc via Clubhouse. On a pas mal discuté, comme j'ai dû le dire déjà tout à l'heure, je suis peut-être en train de radoter. Je suis allé écouter sa musique sur Spotify, j'ai trouvé ça vachement bien, je lui ai proposé. Et puis voilà, ça c'est fait. Alors, Or me demande, est-ce que je fais un métier autre que YouTube et interview? Alors non, je fais à 100% la chaîne guitare. J'ai eu un autre métier à une époque, hein. Moi j'ai eu une formation d'ingénieur informatique à l'origine, j'ai travaillé 25 ans dans le monde du corporate, 10 ans chez L'Oréal au Canada. J'ai toujours joué de la guitare en tant qu'amateur éclairé depuis l'âge de 13-14 ans, j'en ai 54 aujourd'hui, donc ça fait 40 ans que je joue de la guitare, mon Dieu. En 2009, j'ai démarré la chaîne guitare, c'était un podcast hein, que je faisais soir et week-end, sans avoir aucune arrière-pensée d'en faire un boulot à temps plein. Et c'est un peu après en fait que l'idée a fait son chemin, je me suis dit « Ah mais tiens, j'adore faire ça, est-ce qu'il y aurait moyen de faire ça à temps plein ?» Donc j'ai créé la société de la chaîne guitare en 2012, et depuis 2012-2013, je suis à 100% de mon temps sur la chaîne guitare, donc... qui a pour objectif de produire du contenu de qualité, donc essentiellement des interviews avec des musiciens dans tous les styles, hein, du classique au métal, blues, rock, jazz, de tout. Et aussi toutes les dimensions du merveilleux monde de la guitare qui me passionne, qui vous passionne aussi. Donc bien sûr, beaucoup d'interviews de musiciens, évidemment des tests de matos, des reportages sur les événements quand il y en avait, des interviews de luthiers, de fabricants d'ampli, de fabricants de pédales, des visites d'usines de guitare. J'ai visité des usines un peu partout dans le monde, Japon, États-Unis, Mexique, France, on peut pas vraiment parler d'usine, mais enfin il y a l'atelier de Tom Marceau qui est assez gros, Espagne, et je suis en train d'oublier quoi, République Tchèque, je sais plus si je l'ai déjà dit, donc voilà, et aussi beaucoup d'ateliers de luthiers, là aussi un peu partout dans le monde, que ce soit en France, au Canada ou aux États-Unis. Alors, Or me dit, c'est dommage que je n'ai pas plus de vues sur les lives, comment te faire de la pub? Eh bien écoute, est-ce que c'est dommage? Oui, bien sûr, je regrette de ne pas avoir plus de vues sur les lives. Mon point de vue par rapport aux lives, c'est que c'est quelque chose que je fais pour être une vitrine en fait par rapport à mon activité sur la chaîne guitare. Je sais, pour en avoir beaucoup discuté, soit avec des gens qui sont abonnés à la chaîne guitare ou des gens qui ne sont pas encore abonnés, que le live se consomme aussi très souvent en replay par la suite, donc du coup je vais pas te cacher que je serais ravi d'avoir des dizaines, des centaines de personnes en direct sur le live, en général c'est pas le cas. On monte sur les lives du vendredi soir, je monte en général à 20, 30, 40 personnes en direct. Là, vous êtes une petite trentaine là, à regarder ça. Et je sais que, encore une fois, le contenu est écouté par la suite. Donc moi, ça me va très bien. Le but du jeu, de toute façon, moins que le volume, c'est plus avoir le contact et l'interaction avec les gens. Hein. La démarche que j'ai sur la chaîne guitare, c'est de proposer du contenu de qualité. Voilà, j'ose parler de qualité sur internet, oui monsieur. Moi, quand mes vidéos, enfin le format court de 5 minutes que je fais depuis quelques semaines maintenant, qui est en libre accès, s'il est regardé, très bien. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il est regardé par des gens qui sont passionnés de guitare. Voilà, moi, comme je monétise pas les vues sur YouTube, mes vidéos sur YouTube ne sont pas monétisées. Pour moi, même le nombre d'abonnés sur la chaîne YouTube, c'est pas un indicateur hyper important, et le nombre de vues non plus. Donc voilà. Maintenant, depuis que j'ai commencé à faire des lives depuis 2-3 ans, il y a plus en plus de gens qui sont au rendez-vous, qui viennent, qui posent des questions, qui écoutent, qui interagissent. Donc voilà, c'est le but du jeu. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre avant qu'on lève le camp? Donc, je vous ai parlé de l'Ultimate 4, de Martin Giovanni, de Tiffany Doucet et puis de Thomas Feijoos, de François Sortino. Écoutez, je crois que ça fait le tour. J'espère que vous avez passé un bon week-end malgré les circonstances actuelles qui ne sont pas toujours évidentes, pas toujours marrantes. J'essaie de regarder qu'est-ce que j'ai d'autre sur le radar. La semaine prochaine, je suis pas mal occupé, j'ai pas mal d'interviews, surtout des musiciens qui viennent ici au showroom. Donc on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Ouais, j'ai trois interviews la semaine prochaine. Donc ça devrait être bien cool. Voilà. Écoutez, sauf dernière question de votre part, je vous propose qu'on arrête ce live pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir regardé ça. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les poster sur la vidéo YouTube une fois qu'elle sera là en mode replay. Si vous écoutez ça dans le podcast, je suis ravi d'être entre vos deux oreilles. Et vous pouvez toujours interagir avec moi sur tous les réseaux sociaux, donc la page Facebook, le compte Instagram, Twitter, Clubhouse, voilà, où je suis assez régulièrement, où là je suis en train de diffuser depuis tout à l'heure. Ah, une petite question de Manex qui me dit c'est chouette que tu réussisses à continuer les interviews. Oui, et ce qui est marrant, c'est que j'ai fait plus de 1000 interviews hein, sur la chaîne guitare, donc ça fait beaucoup de gens interviewés, mais il y a encore des tas de gens, et Dieu merci, qui me reste à rencontrer, voire des gens que j'ai déjà interviewés. Je suis toujours très content de les refaire en interview. Ça permet d'aller un peu plus loin. Donc, et la démarche de qualité que je propose est de plus en plus reçue de manière positive par les internautes. Moi, comme vous, je consomme beaucoup de gratuits sur Internet. Je regarde des vidéos sur YouTube qui ne me coûtent pas un rond, etc. Mais je pense, comme vous aussi, je sais qu'il y a aussi du contenu auquel on accède si on veut de la qualité ou certains sujets. Bah voilà, il faut payer pour accéder à du contenu de qualité. Moi, c'est ce que je propose via la chaîne Guitare. Comme je le dis tout le temps, moi, je ne suis dépendant que des abonnés qui soutiennent le projet. Voilà, j'ai pas de, il n'y a pas de publicité sur la chaîne Guitare, non di ni direct ni indirect. Les vidéos ne sont pas monétisées. J'ai pas de lien avec les importateurs autres que des liens amicaux, je dirais. Voilà, j'ai pas à gérer la page de publicité qui est 3 pages plus loin par rapport à un test que, par rapport à un matériel que je vais tester, par exemple. Voilà, donc du coup, j'ai les coudées complètement franches par rapport à ça. Je ne suis dépendant que des abonnés qui embarquent dans la démarche que je propose. Donc, si je fais du contenu de qualité, ben les internautes embarquent et réembarquent pour ceux qui s'abonnent à l'année et puis qui remplissent année après année. J'en vois quelques-uns dans la chatroom, donc merci beaucoup à vous. Si mon contenu n'est pas bon, eh ben les gens arrêtent de payer. Voilà, ça me paraît être quelque chose qui est clair, qui est concis, qui est net et qui définit en fait vraiment encore une fois toute la démarche que moi je peux avoir par rapport à ça. Jean me dit merci à toi Pierre, un moment d'évasion le dimanche soir avant de reprendre le quotidien, ça fait un bien fou. Eh ben écoute, Jean, merci beaucoup à toi. Jean, l'exemple type d'un abonné passionné qu'on j'ai rencontré, je pense que c'était au NAMM 2020, qui s'est abonné par la suite, qui m'a prêté du matos depuis, enfin bref, et quelqu'un pour qui l'amplificateur de passion carbure à plein régime. Ah oui, là, or, tu as une question. Quelle corde me conseilles-tu pour la guitare classique? Alors écoute, alors là, moi, j'y connais absolument rien en guitare classique, hein. J'ai commencé sur une guitare classique, comme en général, tout le monde le fait. J'y connais rien, donc je vais te recommander Savarez parce que c'est français, et puis parce que ce sont les leaders mondiaux, je pense, de la corde nylon. Mais je serais bien en peine de te recommander un modèle particulier chez Savarez. Moi, par rapport aux cordes, je fais partie des gens qui sont sceptiques. Alors, non pas par rapport à la qualité des cordes, parce qu'effectivement, toutes les cordes ne sont pas égales devant Dieu. Mais je suis sceptique par rapport à ma propre capacité à discerner entre telle corde plutôt que telle autre. Je suis capable de sentir la différence entre des cordes qui sont coated, comment on appelle ça en français, qui sont gainées ou qui ont un traitement de surface, donc comme les Elixir ou il y a d'autres marques qui font ça. Et donc des cordes qui sont avec traitement et d'autres sans traitement. Maintenant, je pense que je suis complètement incapable de trouver la différence entre des Datario, des Ernie Ball et je sais pas quoi. Hein. Ça, y a aucun doute. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à déclencher des guerres de religion pour se battre par rapport aux cordes. Grand bien leur fasse. Moi, c'est mon expérience par rapport aux cordes. Moi, je fais partie des gens qui changent à peu près jamais leurs cordes. Hein. Ne le répétez pas, hein, mais faut vraiment que je sois borderline tétanos sur une corde, sur une guitare pour changer les cordes. Ou alors, si j'en casse une. Alors là, en général, évidemment, je la change et très souvent, je change tout le jeu de cordes au complet parce qu'on se retrouve à ce moment-là avec des différences de son qui sont assez importantes. Voilà. Bah écoutez, voilà. Encore une fois, sur la guitare classique, pas gros conseil à donner par rapport à ça. Je serais bien en peine. Et même, tu me poserais la question pour une guitare folk. Moi, j'aime bien le son des cordes Elixir, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout les cordes Elixir. Voilà, enfin, ça se discute et tout est affaire de goût. Et c'est quand même, je trouve, assez subtil. Moi, pour avoir fait des interviews avec beaucoup de musiciens, je me rends compte que le musicien, c'est une porte ouverte hein, que je vais enfoncer. C'est avant tout lui qui fait le son. Donc, et plus il est bon, plus c'est lui qui va faire le son. Donc, pour avoir reçu plein de musiciens ici, puis des musiciens de calibre, classe mondiale, quoi, et donc qui ont parfois joué sur les guitares qui sont ici au showroom, donc des guitares que je connais par cœur. Après, je regardais mon matos un peu de travers, je disais, ah bah ouais, donc en fait, le problème, enfin l'écart, c'est pas tellement par rapport au matériel, c'est vraiment par rapport aux musiciens. Voilà. C'est un peu une banalité, mais c'est quelque chose qui est ô combien vrai. Après, ça n'empêche pas que moi, guitariste amateur éclairé que je suis, comme tous les guitaristes, je suis passionné de matos et je passe malheureusement plus de temps, enfin malheureusement ou pas, en tout cas sûrement plus de temps à me dire ah, qu'est-ce que c'est que ça pourrait être la prochaine guitare, le prochain matos que je vais me payer, plutôt que ah, qu'est-ce que c'est la prochaine technique que je vais travailler. Voilà, ça fait partie aussi du plaisir qu'on a en tant que guitariste. C'est un plaisir, je pense, qu'il faut complètement assumer. Il faut juste faire attention de ne pas tomber complètement dans le travers. On ne fait plus que ça. Et du coup, voilà, on se dit, ah ouais, mais vraiment, si j'achetais cette guitare, je serais meilleur. Oui, en général, ça aide un peu d'acheter du beau matos. Ça aide dans le sens où ça motive. Donc, du coup, on rejoue un peu plus. Mais il ne faut pas être dupe de cette illusion, en fait. Hein. Voilà, ce n'est pas le matos qui fait tout. Voilà, je pense que je ne vous ai pas appris grand-chose en vous disant ça. Mais des fois, ça fait du bien de le répéter. 19h57, je pense qu'il est temps de terminer ce live. Merci beaucoup d'avoir regardé tout ça. Je vous souhaite une excellente semaine. Continuez à bien écouter de la musique, à jouer de la guitare, voilà, parler de guitare autour de vous. Et puis, on se reparle très bientôt. Donc, prochain rendez-vous, ça sera le live du vendredi soir. Donc, 19h30 pour les abonnés backstage sur le groupe privé et 20h pour la page publique. D'ici là, une excellente soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.